Bienvenue dans le cabinet d'ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Plané, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de discuter de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. Si l'épisode vous plaît, partagez-le à vos amis et sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de les taguer. Je vous remercie d'avance et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu Degaux.
Bonjour Grégory.
Je suis très très content de te recevoir dans mon podcast. Je suis venu aujourd'hui à Lyon, donc c'est le quartier Montchat.
C'est ça, absolument. On est à Montchat, en plein cœur de cette belle ville de Lyon. Et donc on est ravis de t'accueillir ici pour échanger et parler d'ostéopathie ensemble.
Tout le plaisir est pour moi. Donc on est vraiment dans un très joli cabinet, tout neuf. Ouais. Vous êtes plusieurs hein, sur le cabinet, je crois.
Oui, tout à fait. Alors, ce cabinet au 1 rue Bonnand est un cabinet pluridisciplinaire. On a deux médecins généralistes, deux psychologues, une sage-femme qui vont travailler avec nous. Et on développe vraiment cet aspect de pluridisciplinarité pour essayer de soigner au mieux nos patients.
Ok. Alors, avant de rentrer dans le détail de la pluridisciplinarité, parce que ça m'intéresse fortement, je vais te laisser te présenter, Mathieu Degaux.
Bien volontiers. Bonjour à tous pour ceux qui nous écoutent. Donc, je m'appelle Mathieu Degaux. Je suis ostéopathe de formation. Donc, j'ai été formé à l'ATSA il y a quelques années. Donc, je suis diplômé depuis 5 ou 6 ans, je crois, déjà. Après ma formation d'ostéo, je me suis orienté vers un milieu universitaire. J'ai fait un master 2 en recherche, un peu spécialisé sur les blessures à l'épaule, enfin, les blessures tout court du sportif, et je me suis ensuite lancé dans un cursus de doctorat. Donc aujourd'hui, je suis en troisième année de doctorat. L'objectif est de finaliser la thèse pour 2022. Donc j'ai à la fois une activité de clinicien, une activité de chercheur, et sur mon temps libre, je donne des cours à l'ATSA où j'ai été formé. Donc j'enseigne deux matières, la méthodologie de recherche et la biomécanique tissulaire, disons, propriété physique des tissus du corps humain. Voilà.
Matière que tu avais eue en tant qu'élève ?
Non, absolument pas. C'est des matières qui sont assez récentes dans l'histoire de l'école, et puis je pense dans la formation de l'ostéopathe. Donc c'est des matières qui ont été créées à la suite des derniers décrets ministériels. Donc c'est des matières que j'ai mis en place et que j'assure à l'école depuis 3 ou 4 ans déjà.
C'est une matière, donc c'est les décrets qui vous donnent des compétences à transmettre, mais du coup le cours est complètement tout neuf. Toi qui du coup travaille en labo, a préparé ce cours, toi qui es doctorant et clinicien aussi du coup en cabinet, ce qui veut dire que il y a une différence entre ton cours et le cours qui est donné dans d'autres écoles d'ostéo.
Oui, alors ça, je peux te le garantir, puisque c'est moi qui les ai créés de toutes pièces. Alors bien sûr, hein, on n'est jamais tout seul quand on crée un cours, parce qu'on se base forcément sur les travaux des aïeux. Donc je suis allé chercher de l'info, je me suis documenté sur Internet, bien sûr, dans les bibliothèques. Mais je peux te dire que je suis quand même parti de pages blanches et que j'ai construit ces cours petit à petit pendant mes nuits pour essayer de proposer un cours intéressant, interactif et puis surtout qui parle au public de nos écoles, puisque je pense que la clé, c'est aussi de l'adapter à l'auditoire, parce que si j'avais récupéré un cours déjà tout fait pour des biologistes, je suis pas sûr que ça parlerait à nos étudiants ostéo. Et je pense que c'est le fait que j'essaye de l'adapter à ce public qui permet qu'à un moment, ce public soit intéressé et participe à la matière, participe à rendre le cours interactif, tout simplement.
Plein de questions me viennent forcément. Ce cours que tu prépares et que tu donnes, est-ce qu'aujourd'hui, on reviendra sur ton parcours, est-ce qu'aujourd'hui c'est un cours qui te sert dans ta pratique d'ostéopathe en cabinet à la ville ? Est-ce que tu l'as créé en fonction de ta patientèle ou simplement en fonction de ton ressenti de manque ? Enfin, comment tu l'as créé, ce cours ?
Alors, je réfléchis en même temps, bien sûr, hein, parce que c'est pas une question simple. Mon activité en tant qu'ostéopathe m'aide surtout à illustrer mes cours, je pense, parce que ça me donne des exemples concrets. Et j'essaye de revenir assez régulièrement sur ces anecdotes cliniques pour que ça capte un peu l'attention des élèves. Typiquement, en méthodologie de recherche documentaire, je leur parle de du raisonnement hypothético-déductif, donc qu'on utilise en science. Je fais mon hypothèse. Je fais ensuite mon expérimentation qui permet de, en fonction de mes résultats, de déduire certaines choses, donc d'affirmer ou d'infirmer mon hypothèse. Donc dit comme ça, il y a toute une série d'élèves pour qui ça parle pas, parce que ce concept de l'hypothético-déductif, c'est des mots qui font presque peur. Mais quand je leur dis en fait simplement, vous avez un patient qui arrive avec telle douleur, quand ce patient arrive avec telle douleur, vous vous dites tout de suite dans votre tête, je vais partir sur tel traitement. Alors pour citer des exemples qui parlent peut-être à tous, hein, je pars sur du neuromusculaire, je pars sur du Mitchell, ou je parle plutôt sur du tissulaire ou directement de l'ostéo-articulaire, et j'essaye, je refais mon test de référence et je vois ce qui se passe. Bah là, en fait, vous êtes en plein dans l'hypothético-déductif. Vous avez une hypothèse de départ, vous évaluez, vous réalisez votre action et vous réévaluez ensuite. Et ça vient confirmer, ça vient affirmer ou ça vient infirmer votre hypothèse de départ. Et là, du coup, je pense que pour notre auditoire, donc les étudiants ostéopathes, c'est parlant. Et c'est pour ça que j'essaye de me raccrocher avec ces éléments cliniques.
Donc, sur une méthode de raisonnement, finalement, qu'ils vont réappliquer derrière en cabinet.
Absolument.
Et bien, justement, cette méthode de raisonnement, elle est liée aussi à ton parcours. Moi, je voulais savoir un petit peu ton parcours. Comment tu es arrivé aujourd'hui à cette situation avec un emploi du temps bien chargé? Combien d'heures dans la semaine, juste comme ça, à la louche? À 10 heures près.
À 10 heures près, je pense que si je te dis 60 heures semaine, on est sur quelque chose, on s'approche du vrai, quoi. C'est 60 heures par semaine, à peu près, oui, du 10 heures par jour, avec des journées qui sont plus longues, et puis des journées qui parfois sont plus courtes parce qu'il faut aussi souffler. Et mon parcours?
Par où es-tu passé, du coup?
Voilà. J'ai peut-être un peu zigzagué, je m'explique. J'ai commencé par une première S, je suis ensuite parti sur une terminale ES, j'ai ensuite fait mon parcours ostéo, ensuite mon M Master 2, du coup, et ensuite ma formation en tant que doctorant. Si je reviens un petit peu là-dessus, peut-être parce que c'est ce qui t'intéresse, j'ai fait une première S sur lequel j'ai pas été tellement convaincu par les enseignements qui m'ont été dispensés. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment le sentiment d'un écart entre la formation scientifique qu'on m'a portée et ce que j'appelais à ce moment-là, et ce que j'appelle aujourd'hui, en tout cas, le monde réel. J'ai l'impression que c'était vraiment le grand écart, qu'on m'a apporté des connaissances, mais qui, finalement, me permettait pas de mieux comprendre le monde dans lequel je vis. En tout cas, je vivais. Et du coup, assez rapidement, ça m'a peu intéressé, j'ai eu du mal à vraiment me motiver à aller là-dedans. Donc, j'ai demandé à faire une terminale ES. Bon, ça a été un peu difficile parce que d'un point de vue administratif, le lycée au début était pas trop partant. Puis après, j'ai pu basculer sur ma terminale ES. Ça s'est très bien passé. Et j'ai ensuite pu faire mon école d'ostéopathie, donc en 5 ans. Les premières années, il a fallu un peu cravacher pour revenir sur un niveau en sciences, notamment en bio. Il a fallu cravacher un petit peu, mais ça s'est bien fait. Voilà.
Ça s'est bien fait. C'est pas toi qui me l'as dit ça, mais j'ai entendu dire que tu étais sorti peut-être dans les premières places, je crois, à la fin. Peut-être pas là, mais peut-être même la première, j'ai entendu dire. Donc un parcours atypique, mais une finalité très très intéressante. Donc ça c'est chouette. On sent chez toi qu'il y a cette envie de progresser, de sortir de ta zone de confort, d'aller vers le plaisir, l'apprentissage. En tout cas, ça me plaît pas, je continue pas. Là, ça me plaît, je performe. Comment tu progresses en tant qu'ostéopathe aujourd'hui, enseignant? Tu fais ta thèse, t'es dedans, mais est-ce que tu progresses et comment tu fais aujourd'hui?
Alors, est-ce que je progresse? Je pense que petit à petit, oui, effectivement, je progresse. En tout cas, j'acquiers des compétences nouvelles qui me permettent de nourrir ma réflexion et qui me permettent, je l'espère, d'être un meilleur clinicien, peut-être d'être un meilleur chercheur aussi, et peut-être aussi un meilleur enseignant. Je pense que ce qui me permet de progresser sur ces différents versants, c'est peut-être justement d'avoir ces différents versants, parce que ma réflexion, elle est alimentée sans cesse par mes recherches, par mon activité clinique, mon activité d'enseignant. C'est-à-dire que je me pose la question un peu, et j'essaye de me poser une question, mais j'essaye de voir à travers différents prismes la chose. Et c'est peut-être de le voir à travers ces différents prismes qui m'aident à y répondre, en tout cas, ou en tout cas à trouver mes réponses. Voilà. Et je pense que si j'avais pas cette complémentarité, ce serait peut-être plus difficile pour moi d'y répondre.
Ouais. Parce que au tout début, tu nous as parlé d'un cabinet pluridisciplinaire. J'ai vu qu'il y avait des médecins, orthophonistes. Ouais, ouais. Comment tu échanges avec ces professionnels-là? Est-ce que ça influence ta pratique, toi, ouais, aujourd'hui? Et comment?
Alors, oui, j'essaye d'échanger avec eux, déjà pour leur expliquer ce qu'on fait en tant qu'ostéopathe. Ça, je pense que c'est un point essentiel. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, dans ma vie de clinicien et dans ma vie de chercheur, que les autres professionnels de santé ou les autres scientifiques ou les personnes en tout cas qui composent le monde scientifique connaissent peu notre discipline parce que on communique pas énormément avec eux, en fait. C'est l'impression que j'ai. Donc à chaque fois j'essaye de leur expliquer ce que je fais, quels sont les principes de mon travail, quelles sont les techniques que j'utilise, quels mots j'essaye de prendre en charge, et aussi quels résultats j'ai pu observer, constater en clinique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'individus qui, en fait, sont super curieux de savoir ce qu'on fait, parce que ils ont entendu parler de l'ostéopathie, ils ont entendu parler des ostéopathes, ils connaissent même un ostéopathe, parfois même ils se font soigner par un ostéopathe, mais pour autant ils savent pas vraiment ce qu'on fait. Et du coup, si certains d'entre nous, en tout cas, arrivent, ostéopathes, j'entends, si nous arrivons à formuler un petit peu clairement ce qu'on fait, et peut-être même avoir un discours un peu plus scientifique, en tout cas un discours qu'ils connaissent un peu plus, je pense que tout de suite ça leur parle, et qu'ils sont prêts à bosser avec nous, en fait.
Donc, dans ta démarche pluridisciplinaire, tu es plutôt sur expliquer toi ta pratique, ouais, si je synthétise,
ouais,
et on t'explique moins, c'est-à-dire que tu sais ce que fait l'orthophoniste à côté, ouais, quel type de patient il prend en charge, ouais, c'est des choses que tu avais vues dans ton cursus, ou ouais, tu as ce temps aussi d'écoute, d'aller voir un peu comment ça se passe, je sais pas s'ils ont une spécialité, ce qu'ils prennent en charge, mais comment tu arrives à vraiment échanger? Est-ce qu'il y a des échanges de patients, prise en charge pluridisciplinaire de telle pathologie, de telle pratique?
Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a aussi ce temps d'écoute, il est primordial, et tu fais bien d'en parler. Je pense qu'il y a toute une phase où c'est aussi à moi d'essayer de comprendre comment eux travaillent. Et donc là, ça fait partie des réunions de travail, c'est des échanges qu'on a lors de nos réunions de travail. Donc là, moi, je vais les questionner sur leur pratique. Qu'est-ce qu'ils font? Après, assez régulièrement, je me documente sur les différentes spécialités qu'il peut y avoir. Tu parlais de l'orthophonie, les différentes spécialités qu'il peut y avoir chez un orthophoniste, en médecine générale. Donc, je fais aussi un travail de documentation de mon côté sur leur pratique pour essayer de me tenir un petit peu informé de comment leur science, ou en tout cas leur discipline, évolue. Et puis après, oui, c'est l'échange en direct et l'échange de patients aussi. C'est concrètement ce qui nous permet de voir comment travaille l'autre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de patients en commun. Et du coup, là, à chaque fois, moi, je questionne un petit peu le patient sur ce qui a été fait avec l'autre thérapeute pour avoir, en tout cas, son ressenti. Et après, je débrief avec ce même thérapeute sur ce que j'ai fait et on échange un petit peu sur nos pratiques et où est-ce qu'on veut aller.
Hyper intéressant. ça m'emmène sur cette question. Ça fait 3 ans que tu exerces. C'est 3-4 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans que tu exerces. Dans ces 5 ans, tu es sorti de l'école. Tu as lancé ta pratique avec ce qu'on venait de t'apprendre. Aujourd'hui, tes collègues ont forcément une influence sur ta pratique, puisque tu te documentes. Ton travail en labo, donc chez les STAPS. Comment tu analyses ta pratique d'ostéopathe aujourd'hui? Est-ce que c'est la même en sortant de l'école? Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique?
Alors, je pense que c'est pas la même que quand... Ma pratique aujourd'hui est assez différente, finalement, de celle que j'ai pu avoir en sortant de l'école. Comment je l'analyse? À travers l'échange que j'ai avec mes collègues ostéopathes, donc l'échange nourrit un peu mes réflexions, et puis j'ai la chance d'avoir des patients aussi que je suis depuis un certain temps sur des problématiques chroniques, et donc au fur et à mesure de mes interventions, j'essaie de quantifier l'évolution dans le temps ou s'il y a une amélioration, et j'essaie d'avoir une démarche assez j'essaie de quantifier en tout cas ce que je propose ou mes interventions. Donc c'est-à-dire que j'ai toujours des tests de référence, j'ai des espèces de routines, des espèces de questionnaires si tu veux que j'essaie d'avoir avec eux, que je leur propose presque depuis le début du suivi par rapport à leurs problématiques et que je remets en place assez régulièrement pour voir où on en est dans leur évolution. Et donc, le fait de quantifier, d'objectiver un petit peu les choses, je pense me permet de juger avec un peu plus de pertinence, peut-être un peu plus de justesse, en tout cas je l'espère, ce que je propose.
Alors c'est une vraie question de méthodologie ce que je vais te poser. Tu as quoi comme outil, comme critère de jugement pour justement objectiver cette pratique, parce que je pense que les ostéopathes qui nous écoutent sont à la recherche d'outils. Comment tu fais, toi, dans ta pratique?
Alors, mes tests de référence, ça va aussi dépendre un peu de la problématique du patient, mais j'essaie d'avoir des tests de référence sur les différents systèmes que je vais venir travailler. Donc j'essaie d'avoir cette vision en système complexe, sur le corps de manière générale, donc un système musculo-squelettique, un système plutôt crânien, un système digestif, etc. Et j'ai des tests de référence que j'essaye de garder ou que je fais évoluer aussi au fur et à mesure de ma pratique pour chacun de ces systèmes. Bon, sur un appareil sur le système musculo-squelettique, on peut s'appuyer sur des grands mouvements, je pense que ça marche bien. Sur un système viscéral, je travaille pas mal avec cette notion de pression plutôt partie basse du système digestif, pression partie haute. Sur mon système durmérien, j'essaie d'avoir un test en traction sur la partie occipitale postérieure. Voilà, c'est un peu des tests de référence que j'essaie de garder en tant que fil d'Ariane, ligne directrice un peu sur toute ma séance, et j'y reviens, c'est-à-dire que je fais mon test de référence déjà dans un premier temps, début de séance, je fais ensuite ma thérapeutique, je reviens sur mon test de référence, ok, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça confirme mon hypothèse? Est-ce que ça ne confirme pas mon hypothèse, si je reviens sur ce que je disais au début?
Mmh, tout à fait.
Si ça change quelque chose, c'est qu'a priori, la technique que j'ai choisi et un effet en tout cas sur le système sur lequel je suis en train de travailler. Si ça suffit pas, ça veut dire qu'il faut peut-être que j'aille voir un autre système. Voilà, si j'essaye de résumer un petit peu.
Non, c'est très très clair. Tu vas voir où je veux aller. Et maintenant, ma question, c'est comment ton métier d'ostéopathe agit, puis tu vas nous reparler un peu exactement de ce que tu fais en labo, comment l'ostéopathe influence le chercheur? Comment ta pratique, soigner monsieur et madame tout le monde, a eu forcément un impact sur toi le lendemain, après avoir fait ta journée de cabinet? Le lendemain, tu te retrouves au labo avec des chercheurs autour de toi. Comment ça influence ça?
Alors, dans ma thèse, dans mon travail de chercheur, je suis spécialisé, entre guillemets, sur les pathologies de l'épaule. Donc, je travaille surtout sur les problématiques liées à l'instabilité antérieure, la gléno-humérale. Et je pense que l'activité de clinicien me permet de garder un lien avec le patient. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on brasse des données, on brasse des chiffres, mais on brasse pas de la douleur, si je le dis un petit peu de manière spontanée comme ça. Et le fait d'être clinicien, ça me permet de garder ce lien étroit avec des gens qui ont mal. Et du coup, peut-être que ça me motive encore plus dans mon job de chercheur. C'est-à-dire que j'ai envie de trouver des choses, j'ai envie d'apporter du mieux pour ces gens-là. C'est pas seulement un challenge intellectuel, tu vois, c'est viscéral, en fait. C'est t'as envie, voilà, que ça aille mieux. Parce que tu sais que ça fait mal, quoi. Et je pense que c'est en ça que ça alimente. Et une obligation pour moi, c'est-à-dire que je voulais faire de la recherche, mais en même temps, je voulais garder cette activité clinique. À l'inverse, cette activité de chercheur, elle va alimenter ma pratique en tant que clinicien, parce que tu le suggérais tout à l'heure, je pense que je me remets beaucoup en question dans ma pratique, parce que je sais que ma subjectivité peut facilement m'amener sur sur une fausse route, en fait, sur des fausses pistes, sur des croyances, en fait. Et je me méfie de la croyance.
Ouais. Voilà. Donc, dans l'évidence best practice, que tu tends vers cette pratique-là, en tout cas, quel discours tu as avec tes patients quand ils te demandent un peu qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que c'est cette manipulation, quel impact ça peut avoir, toi qui fais de la focalisation, crois qu'en recherche on dit more and more but less and less, c'est ça je crois, et avec un traitement global derrière sur un patient que tu prends en charge, quel discours tu as avec tes patients?
Quel discours j'ai avec mes patients? Alors bon, ça va dépendre bien sûr, ça va dépendre des patients, ça va dépendre du trouble, ça va dépendre de moi aussi à chaque instant bien sûr. Mais globalement, j'essaie d'être, comme dans mon activité d'enseignant, je pense que j'essaie d'être assez pédagogue et j'essaie de leur expliquer vraiment ce que j'ai fait. Il y a une dysfonction articulaire sur votre sacro-iliaque. Alors j'ai toujours mes petites maquettes, j'ai plein de petites maquettes, je leur fais voir, voilà, qu'est-ce que c'est la sacro-iliaque, le sacrum iliaque, le sacrum sur lequel repose la colonne vertébrale. Donc j'essaie de localiser un peu, voilà, votre problématique, elle est ici, votre douleur, c'est a priori plutôt votre système ligamentaire, quand on va faire les différents tests, c'est votre système ligamentaire qui est en souffrance, il y a sûrement une inflammation sur telle ou telle zone. Je travaille pour avoir une influence sur ce système-là qui est en souffrance. Et je leur explique, du coup, j'ai travaillé sur votre genou, j'ai travaillé sur votre système digestif, parce que votre genou va avoir une influence sur votre sacro-iliaque, de par, ne serait-ce que les contraintes gravitaires quand vous êtes debout. Je vais aller travailler sur votre système digestif parce que votre colon sigmoïde va être attaché sur cette portion de l'iliaque, etc. Donc j'essaye de leur mettre un petit peu en avant les liens anatomiques. Et puis, surtout, quand ils sont sur la table, j'essaye de leur faire sentir potentiellement le lien entre les différentes structures. C'est-à-dire que, vous voyez, si je prends un exemple un petit peu, peut-être bateau, mais j'appuie sur cette zone du colon, donc si je parlais du colon sigmoïde, ah ouais, tout de suite, c'est une douleur irradiante, ça vient jusque sur la sacro-iliaque. Voilà, tout simplement. Enfin, des choses...
Énormément dans le ressenti du patient. C'est de... À la fois dans l'explication et dans tes tests manuels et tes techniques, qui est un échange, on va dire, direct et immédiat avec le patient.
Ouais.
Ce qui est un petit peu l'opposé de 3 ans de recherche basé sur des faits, sur des protocoles. Ce clivage dans ta tête, cette dichotomie, on va dire...
Schizophrénie, je pense
voilà,
que tu peux dire.
Voilà, très bien, je sais pas, mais...
Tu peux.
Cette schizophrénie, comment tu vis ça, toi? Parce que ma question, elle a un objectif, c'est que si demain un étudiant nous écoute et se pose des questions en fin de cursus d'ostéopathie, il se dit, mais attends, j'ai pas toutes les réponses, j'aimerais chercher... tout en pratiquant, c'est ce que tu fais. Comment on vit ça en tant qu'homme, pas en tant que, tu vois, quand tu rentres chez toi le soir?
Ouais. Et c'est vraiment le terme schizophrénie, il est vraiment là. Hein. C'est-à-dire que il y a plein de questions en fait pour lesquelles j'ai pas de réponse encore. C'est-à-dire que quand on va faire de la science, on va aller sur une question de recherche extrêmement précise, on va vraiment se focaliser. Et du coup, quand on va faire de l'ostéopathie, on va être sur quelque chose, peut-être aussi une prise en charge, comme tu le disais, très globale, où on va gérer plein de systèmes complexes. Et à partir du moment où on gère des systèmes complexes, il n'y a pas de solution simple. Voilà. Donc, je pense que j'essaye d'avoir une démarche qui me conduit à limiter le nombre d'erreurs, limiter au maximum les biais, en sachant qu'il y en a toujours. Je ne peux pas être sûr à 100%. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent à mes patients. Je dis, attendez, on ne fait pas du on-off, là. On travaille sur un organisme biologique. Donc, dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Mais vous pouvez très bien faire partie de la proportion qui ne réagit pas tout à fait comme je viens de vous le décrire. Donc, on peut pas être sûr à 100%, et en ostéopathie, dans mes traitements, dans l'utilité de certaines techniques, dans les réactions physiologiques à la suite de certaines techniques, je suis pas encore sûr. Je me pose ces questions. Et je pense que c'est comment je gère ça, finalement, bah, ça entraîne tout le temps plus de questions, et du coup, je pense que j'essaye de me rassurer quelque part, bah, en travaillant, c'est-à-dire en essayant de trouver des réponses. En faisant tourner ma machinerie cérébrale le maximum pour remettre en question les idées que j'ai, remettre en question les idées que j'ai, et puis essayer de construire quelque chose de carré, entre guillemets.
Parce que ça doit pas être simple, j'imagine, pour toi, une séance où ce que t'as fait peut-être pas fou, basé sur des ostéopathes, je te poserai la question un peu qui t'a influencé, mais on va dire des pionniers où c'est pas bien prouvé, on est plutôt sur de l'empirisme, de l'expérience, et puis tu t'aperçois que ton patient, ta patiente, c'est, j'aime pas le mot miraculeux, mais en tout cas ça a bien fonctionné, il y a rien dans la littérature, toi qui fais des revues de littérature, qui sais ce que c'est que le mot exhaustif, comment tirer satisfaction de ça? Comment le refaire le lendemain? Comment être capable de le transmettre à tes élèves? Il doit y avoir un sacré... il doit se passer des choses.
Oui, il se passe des choses, complètement. alors après...
Je vais te chercher là-dessus, parce que
c'est très intéressant.
C'est une question que beaucoup se posent.
Ouais, mais complètement.
C'est mince, je fais cette technique, ouais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je l'ai ratée, et ça a fonctionné.
Ouais. Alors, je pense que des fois, il y a aussi des choses... c'est-à-dire qu'on peut... On saisit pas forcément toutes les variables en jeu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Hein. Là, ça a marché sur tel patient, parce que pour lui, peut-être qu'il y avait une problématique sur tel système, pour revenir sur cette notion de système, que j'avais pas encore bien ciblé, et qu'en venant faire cette technique, j'avais pas pensé à cette interaction, j'avais pas pensé à cet effet-là, mais en fait, il se trouve que cet effet-là, ben, là, chez lui, ça, c'est ce qu'il lui fallait, en fait, à ce moment-là. Je pense que, in fine, ce qui est important, quand même, c'est que le patient soit soulagé, aille mieux, au final. Ça m'embête moins, si tu veux, si le patient... il revient en me disant « Ok, c'est beaucoup mieux et qu'à la base, j'étais pas trop convaincu », plutôt que ce soit dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, je suis absolument convaincu, j'ai fait mon diagnostic ostéopathique, j'ai fait mon cheminement intellectuel et ça me paraît bien carré, pour reprendre les termes que j'utilisais juste avant, et in fine, il se passe rien. En tout cas, ça va pas du tout dans le sens que j'avais prédit. Donc des fois c'est pas évident, enfin c'est souvent pas évident même, mais pour reprendre les mots d'un ostéopathe que j'ai eu durant ma formation, Monsieur Ispa, donc je sais pas si Monsieur Ispa nous
Docteur
entendra.
Docteur Ispa.
Docteur Ispa, absolument. Donc qui a été un des ostéopathes qui a influencé ma pratique et mon cheminement intellectuel en tout cas, m'a dit une fois que parfois, il fallait être capable de se laisser aller au lâcher prise, en fait, pour pas essayer tout le temps être purement dans l'intellectuel et dans le contrôle total, en essayant de contrôler toutes les variables. C'est qu'en fait, il y a des fois, nos mains, nos sensations vont nous guider sur des choses, et je commence à accepter de faire taire, entre guillemets, ma machinerie cérébrale, pour
revenir à une, pardon si je te coupe, à une ostéopathie plus humaine.
Voilà, seuls les tissus savent.
Seuls les tissus savent.
Voilà, peut-être.
C'est passionnant. Tu me disais en off que tu développes la structure recherche dans l'école où tu es enseignant. Donc tu développes cette structure recherche. Et parallèlement, tu suis ces conseils de rendre un petit peu plus humain l'ostéopathie. Comment tu fais pour développer cette structure recherche? Et ça part de quel manque pour toi aujourd'hui de l'ostéopathie, puisque tu t'y connais en recherche. Qu'est-ce qui manque pour toi?
Alors, pour cette structure recherche, donc pour l'instant, mon travail à l'école d'ostéopathie est essentiellement basé donc sur ces cours de méthodologie de recherche, premièrement, aux étudiants de troisième année, ensuite biomécanique tissulaire, et après l'idée, une fois mon doctorat terminé, ce serait effectivement de pouvoir un peu plus m'investir dans le pôle recherche de l'école, parce que maintenant toutes les écoles, suite au dernier décret ministériel, doivent posséder un pôle recherche. Donc, l'idée pour moi, ce serait de m'y investir un peu plus en développant des protocoles expérimentaux, en fait.
Ouais.
En faisant de la recherche, en faisant de la science, autour de l'ostéopathie.
Avec, je crois, pardon, une transversalité avec les STAPS, hein.
Oui, alors, effectivement, mon doctorat, moi, je travaille dans un laboratoire de sciences du sport. Donc, c'est un laboratoire qui est effectivement plutôt spécialisé sur tout le questionnement autour de la blessure, la gestion de la charge mentale, etc., etc. Si je dois être un peu plus précis, je travaille dans un pôle biomécanique, donc qui est spécialisé sur les blessures du sportif et sa prévention. Et donc moi, mon versant, c'est, on va dire, l'épaule du sportif. Donc, ce travail dans ce laboratoire, finalement, m'a permis d'acquérir des connaissances et des compétences en recherche que j'aimerais, à terme, pouvoir transférer, finalement, dans un pôle recherche, mais plutôt ciblé ostéopathie, parce que, finalement, c'est mon cœur de métier, c'est que j'aime, et c'est vraiment pour ça que je l'ai fait. C'est-à-dire que moi, je suis allé chercher des compétences et des connaissances pour pouvoir après les retranscrire dans ma discipline.
T'as double compétence, finalement.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est tout à fait. Et donc après, aujourd'hui, je pense que ce qui manque dans l'ostéopathie, ou en tout cas, ce qui manque dans la recherche ostéopathique, c'est des gens qui ont justement ces compétences, ces connaissances, et qui veulent s'investir là-dedans, qui veulent investir de l'énergie et du temps là-dedans. Parce que faire de la recherche, c'est un métier à part entière, et ça demande de l'énergie, et ça demande de l'investissement. Et donc, si d'autres personnes sont dans cette idée-là, d'acquérir des compétences et des connaissances, et qu'on va ensemble faire de la recherche en ostéopathie, on fera des choses intéressantes. Ça peut pas se faire tout seul. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que je veux faire. C'est-à-dire que je veux me diriger vers la recherche en ostéopathie. Et pour ça, finalement, on voit bien dans la littérature scientifique, hein, si vous tapez dans les différents moteurs de recherche scientifique, juste manuel thérapie, vous trouvez un peu des choses. Osteopathic treatment, vous trouvez déjà beaucoup moins de choses. Et si vous cherchez des études de qualité, vous pouvez vous lever tôt, hein. Il y a des choses, hein, bien sûr, il y a des choses, et je veux absolument pas dénigrer ce qui a été fait précédemment, et je pense que je suis d'ailleurs très reconnaissant pour ceux qui ont œuvré pour que ça avance, mais il faut continuer, parce que la recherche, c'est, on avance vraiment pas à pas, quoi. C'est chacun amène sa pierre à l'édifice, et avant qu'on fasse un édifice, il nous reste un peu de temps.
Et c'est des choses que tu aimerais publier plus tard, parce que tu as publié déjà quelques articles. Enfin, je dis quelques, je sais pas, j'en ai lu un.
Oui,
c'est sûr.
Oui.
Alors, c'est des choses que tu aimerais faire pour faire avancer l'ostéopathie, parce que tu fais partie de ces gens qui veulent faire avancer. Ouais, et ça se sent quand on te connaît, quand on te côtoie. Comme tu dis, cet amour que tu as du métier. Est-ce qu'on peut s'attendre à des publications? Je voudrais spoiler un peu la suite des épisodes de Mathieu Degau, mais comment tu vois le truc?
Alors, je pense que de toute façon, en fait, pour que ça avance, véritablement, pour qu'il y ait vraiment un pas en avant, pour qu'on puisse tendre vers l'édifice, de toute façon, je pense qu'il faut publier. Parce que la publication, ça permet ça permet plusieurs choses, mais ça permet la publication scientifique. Donc, c'est-à-dire que la publication d'un article scientifique autour d'une démarche expérimentale qui traite de
qualité.
Voilà, publication de qualité dans une revue indexée. Ça permet d'archiver des résultats, mais ça permet aussi de les confronter à la communauté internationale et de la confronter à l'expertise des pairs. C'est-à-dire que ça permet de montrer à tout le monde, voilà, ok, on a fait une expérimentation, on a évalué l'effet de telle ou telle telle ou telle technique ostéopathique ou de thérapie manuelle de manière générale, et voilà les effets physiologiques, voilà les effets sur la marche ou que sais-je, sur différents paramètres biomécaniques, voilà les effets qu'on a observés. Et quand on sera plusieurs dans cette démarche-là, finalement, ça permettra d'avoir une espèce de base de données. Et à partir de cette base de données, on pourra finalement avoir des connaissances un peu moins empiriques, des choses un peu plus concrètes, un peu plus objectivables, un peu plus quantifiables. C'est comme ça qu'on fait de la science. Mm-hmm. Et je pense que l'ostéopathie en a besoin aujourd'hui pour continuer son développement et surtout pour acquérir une reconnaissance au sein du monde scientifique et au sein du monde médical. Parce que le monde scientifique et le monde médical, il avance, les deux avancent finalement grâce à ça, grâce à ces données expérimentales, grâce à ces publications. Et si on veut vraiment que l'ostéopathie avance dans ce sens-là, je pense qu'il faut qu'on fasse un pas dans cette direction, parce que c'est pas les autres qui viendront vers nous.
Est-ce que tu as la sensation, c'est une question un peu spéciale, mais est-ce que tu as la sensation que l'ostéopathie essaie de rattraper une méthodologie utilisée en médecine sur des échantillons, sur des qui se calculent, mais des petits échantillons, à l'heure où nous sommes entourés par Amazon, Google, Netflix, où ils ont un retour utilisateur sur toute la population. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous, on va tenter que l'ostéopathie soit calculée soit prouvée sur des échantillons, alors que la médecine est en train d'avoir des... C'est plus des échantillons, c'est des valeurs réelles. Enfin, en tout cas, Netflix va te proposer ce que tu aimes, va te comprendre avec l'intelligence artificielle sur sa base de données qui n'est pas un échantillon, mais qui est le reflet de tous ses abonnés. Et nous, ostéopathes, on a énormément de gens qui viennent nous voir en cabinet. C'est plus... Enfin, chaque année, c'est 90% des gens qui sont intéressés par l'ostéopathie s'ils ne pratiquent pas. C'est des données que j'ai. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on a un train de retard et est-ce qu'on peut le rattraper ?
Alors, un train de retard, je pense que c'est sûr. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit, comme je disais tout à l'heure, les recherches qui sont faites, c'est vraiment sur des petits échantillons. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut commencer par ça. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, il vaut mieux une étude bien faite avec N égale 30, donc c'est-à-dire 30 participants, 30 individus, 30 patients, que pas d'étude du tout, parce qu'on considère qu'on n'en a pas assez. Encore une fois, c'est cette notion de j'avance pas à pas. C'est-à-dire qu'au début, il faut faire 30, et puis après, si on voit qu'à 30, il y a quelque chose d'intéressant qui sort, comme on dit, un résultat significatif, ou d'ailleurs un résultat non significatif, parce que ça nous donne aussi une information. Mais si on a un résultat à 30, eh ben, on va à 60, et puis après, on va à 300. Et c'est comme ça que ça avancera véritablement. Je pense qu'on a un train de retard. Mais la partie n'est pas perdue. Il faut qu'on s'y mette. C'est juste ça. Et je pense que les décrets obligeant finalement à avoir des cours de méthodologie de recherche documentaire et peut-être aussi un peu plus de matières, comment dirais-je, des matières se basant sur le raisonnement scientifique. Je pense que ça peut pousser aussi les étudiants dans ce type de réflexion et pousser donc in fine les cliniciens.
Ça veut dire, j'ai pas cette prétention, mais pour toi, on a un train de retard sur l'evidence-based medicine, en tout cas sur ces protocoles-là. Je te pose la question, est-ce que l'evidence-based medicine est vraiment l'outil pour mesurer, pour quantifier la pratique ostéopathique, cette médecine manuelle? Est-ce qu'on a un train de retard? Toi, tu me dis qu'on a un train de retard. Moi, je te pose la question, est-ce que c'est vraiment le bon outil?
Alors,
pour l'évaluer.
C'est peut-être pas le bon outil pour évaluer l'ostéopathie avec un grand O, parce que c'est un traitement global. Et en science, ou sur l'evidence-based medicine, on n'est pas en train d'évaluer des traitements globaux, mais on est en train d'évaluer des traitements spécifiques, hyper ciblés. Et c'est pour ça que ça marche, cette évaluation, basée sur la science. La science, finalement, en tout cas avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, hein, encore une fois, je pense que j'ai une expérience de chercheur, je suis chercheur junior, comme je suis ostéopathe junior. Et je le rappelle.
Mais t'es en plein dedans.
Voilà.
Donc t'es le mieux pour en parler. T'es la meilleure personne pour en parler, je pense.
Donc, encore une fois, en science, on fait du hyper spécifique, du hyper ciblé. C'est sûr qu'on peut pas prétendre, je pense qu'on peut pas prétendre avec les outils scientifiques actuels à évaluer l'efficacité de l'ostéopathie avec un grand O. Par contre, l'effet d'une technique spécifique réalisée dans un protocole standardisé, oui, on peut le faire. Et je pense, mais c'est ma vision, que dans un premier temps, on doit un petit peu se confronter déjà à ça, avec nos techniques, avec notre façon de faire. Après, si on trouve déjà des effets sur une technique prise individuellement, pourquoi ne pas aller ensuite étudier l'effet cumulatif de ces techniques? Mais je pense pas, en fait, que... Je pense pas que le monde scientifique ou le monde médical nous ouvrira ses portes si on reste dans une démarche de on n'a pas besoin de prouver. Notre existence se suffit à elle-même. En tout cas, c'est ma conception.
En tout cas, on sent l'envie de chercher sans forcément remettre en cause ou en les principes même de l'ostéopathie, la philosophie de l'ostéopathie. Je dis pas qu'il faut lire uniquement la philosophie de Steele et de tous les gens ensuite, mais quand on lit un petit peu les pères fondateurs, on peut pas aujourd'hui ne pas remettre en question ce qu'ils faisaient, ce qui est encore enseigné aujourd'hui dans les écoles. On sent que ça... Il y a une tendance à ce que ça change avec ce que tu proposes. Je me mets à la place du jeune étudiant qui veut s'inscrire en école d'ostéopathie. Tu lui conseillerais quoi pour pratiquer ce métier? Tu lui conseillerais de lire quoi? D'aller vers quel endroit pour se renseigner sur l'ostéopathie de demain? Enfin, d'aujourd'hui et de demain.
Waouh, c'est une bonne question, ça. Moi, je lui dis, en tout cas, mon idée aujourd'hui, ce serait de lui conseiller d'aller se construire une base solide, une base de connaissances solides. Donc, bien sûr, de l'anatomie.
Sur des sciences fondamentales.
Sur des sciences fondamentales.
Donc, pour réussir son parcours.
Ouais. Déjà, pour réussir son parcours, sur de l'anatomie, ça en a beaucoup, on en a tous. Peut-être sur plus de physiologie, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les centres ostéopathique, la physiologie est finalement enseignée, mais avec moins d'engouement, avec moins de volonté que l'anatomie. Pour autant, on est quand même tout le temps en train de soigner, ou en tout cas, dans la majorité des cas, on est censé prendre en charge des troubles fonctionnels. Comment prendre efficacement en charge un trouble fonctionnel si on ne maîtrise pas les bases de cette fonctionnalité, en fait. Bien sûr, de la pathologie, ça va de soi, parce qu'on est souvent consulté en première intention, donc on n'a pas le droit ou pas trop le droit de se tromper. Il faut pas faire de bêtises. Et après, je pense que toute cette découverte de la littérature et de la philosophie de l'ostéopathie, je pense qu'elle peut venir peut-être un peu par la suite, en fait. C'est parce que c'est des concepts assez abstraits, donc c'est difficile de se construire sur de l'abstrait, je pense. Je pense qu'on a besoin de choses carrées, on a besoin de choses solides, on a besoin d'une base solide pour construire ensuite une pyramide ou une cathédrale, quoi. Et en tout cas, je pense que dans un premier temps, c'est plus facile d'aller sur ces matières-là, voilà, essayer de bien comprendre en science quels sont l'état des connaissances actuelles. Et puis petit à petit, de venir sur un peu plus l'aspect philosophique de la chose. Et d'ailleurs, cette chose-là va s'apprendre en même temps que l'étudiant va acquérir l'ensemble des outils qu'il va pouvoir utiliser en cabinet, toutes ces techniques.
Les outils plutôt manuels.
Voilà,
je te vois avec tes mains mimées.
Exactement.
Malheureusement, on n'a pas de vidéo. Ouais. Mais, donc, vraiment se baser sur des choses concrètes, scientifiques, on entend par là concrètes, qui sont modélisables, qui sont faciles à quantifiables.
Ouais, exactement.
Tu conseillerais ça, mais c'est passionnant.
Ouais.
Et ensuite, d'aller un petit peu dans des choses plus philosophiques, pour ne pas dire ésotériques, pardon.
Oui, oui, un peu. Dans un deuxième temps, plutôt, effectivement. Je pense. Parce qu'on peut vite se perdre avec la philosophie. Alors, se perdre, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais on peut vite s'égarer. On peut. Voilà, c'est mon idée en tout cas aujourd'hui.
Et alors, là, on a le ressenti du futur ostéopathe et le patient aujourd'hui, tes patients en cabinet, qu'est-ce qu'ils attendent ? De cette avancée de l'ostéopathie. Ils sont peut-être suivis en ostéopathie depuis 15, 20 ans par des gens qui étaient kiné-ostéo. Comment on peut analyser leurs besoins ? Puisque de partout, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on est dans le besoin du consommateur. Finalement, le patient est un consommateur, attention à mettre entre guillemets. Dans la recherche, à quel moment et où ça intervient le besoin du patient ? Comment il est pris en compte, ce patient ? Une question piège, hein, ça.
Pas facile.
Je peux la poser qu'à un chercheur.
Alors, je pense que le besoin du patient, c'est avant tout d'être bien soigné, d'être bien pris en charge. Donc, moi, mon obsession, je dirais, c'est de tout mettre en œuvre pour que cette personne, elle soit la mieux prise en charge possible quand elle est dans mon cabinet. Et pour qu'elle soit la mieux prise en charge possible, je considère que je suis dans l'obligation de dire le moins de bêtises possible.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Pour moi, le...
Donc, si t'es style, c'est une bêtise. Si t'es un article scientifique qui vient de sortir dans une revue que tu aimes, c'est pas une bêtise.
Alors,
c'est hyper important pour toi.
Attention, j'ai pas dit que si c'était une bêtise. Non, non.
je pousse le bouchon.
Oui, oui, non, non. Mais en fait, je suis dans un. C'est mon prisme, c'est ma vision, mais je suis dans une logique de vérité vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire que quand je vais détailler à mon patient sa problématique, il faut vraiment que je sois convaincu que c'est la problématique qu'il a. Si j'ai un doute, je vais lui faire part de mon doute à un moment.
Parce que tout à l'heure, je te coupe, excuse-moi, tu expliquais à juste titre, et c'est ce que tout le monde fait en cabinet, c'est pour ça que je te creuse un peu. Je vous ai fait un axe plutôt viscéro-pariétal, mais s'il n'y a pas d'article scientifique là-dessus...
Il n'y en a pas.
Je pousse un peu, mais...
Il n'y en a pas.
Par contre, tu en es convaincu.
Ouais.
Ça, c'est ce qu'on on voit dans tes yeux, là. C'est que, OK, c'est pas prouvé encore, mais j'en suis convaincu. Ça veut dire que dans ta démarche de scientifiser, je ne sais pas si ça te dit, l'ostéopathie, il y a un peu cette idée d'aller chercher ce dont tu es convaincu, ce qu'on t'a transmis et qui fonctionne.
Oui, ce dont je suis convaincu, les choses... Finalement, les choses qui m'ont convaincu moi-même en clinique, au fur et à mesure.
Dans ta pratique.
Dans ma pratique, exactement. Parce qu'il y a des choses, j'en citerai pas, mais il y a des choses qui, finalement, pour moi, n'ont jamais rien donné. Alors, peut-être que ma sensibilité manuelle ou autre, intellectuelle, n'est pas la bonne, mais il y a des choses, pour moi, qui relèvent parfaitement de l'ésotérique. Comme tu disais,
de l'esbrouf.
C'est ça,
de l'incantation.
Et moi, je veux pas cautionner ça. C'est-à-dire que jamais je vendrai un discours à mon patient en lui disant c'est bon, je vous ai fait ça, vous verrez, ça ira mieux demain. J'en suis pas convaincu. Et j'y crois pas. Entre guillemets, mes tests m'ont pas convaincu de la véracité de cette affirmation. Donc j'y vais pas là-dessus. Je vais aller plutôt effectivement sur des choses qui m'ont convaincu au fur et à mesure de mes tests, et bien sûr qui finalement, les choses pour lesquelles on m'a convaincu dans ma formation, parce que j'essaie d'être lucide. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on m'a convaincu que ça marchait, je l'ai pas encore vraiment remis en question. Voilà. Parce qu'on a besoin de fondements, comme je disais tout à l'heure.
Et dans ces fondements, dans ces gens que tu as pu croiser, Je crois que tu lis beaucoup, tu es quelqu'un qui aime lire. Qui t'a influencé, qui influence encore aujourd'hui ta pratique, comme tu parlais du docteur Ispa tout à l'heure. Tu peux nous faire partager des lectures à aller voir, à aller lire.
Alors,
tu as un livre de chevet?
J'ai beaucoup de livres de chevet. J'ai beaucoup de livres de chevet. En fait, aujourd'hui, je me suis un petit peu éloigné des écrits, on va dire traditionnels peut-être de l'ostéopathie, tous les écrits philosophiques. Je m'en suis un petit peu éloigné, justement parce que je voudrais les reprendre un peu plus tard. Et là, pour l'instant, je suis plutôt dans des phases où je me concentre sur des écrits scientifiques, notamment sur ce que j'appelle la biomécanique tissulaire, propriété physique des tissus du corps humain. J'essaie de lire un peu de lire pas mal d'articles en fait là-dessus. Qu'est-ce qui se fait? Comment fonctionne le complexe muscle-tendon? Comment fonctionne le complexe ligamentaire après une chirurgie? Quelles sont les différentes étapes de cicatrisation? Et j'essaie plutôt de me nourrir de ces éléments-là pour après les confronter à ce qui est écrit dans l'ouvrage un peu plus traditionnel ostéopathique. Alors, je pense que je lis moins cette littérature ostéopathique pour pas l'oublier, mais presque. C'est-à-dire que pour essayer de devenir un peu neutre. C'est-à-dire, c'est des écrits que je reprendrai avec plaisir un peu après. Mais pour l'instant, j'ai besoin de faire un peu silence de ça. Mmh. Pour aller encore un peu plus m'imprégner de l'aspect scientifique.
Tu peux nous citer un livre, un article, pour qu'on puisse un peu creuser.
Des ouvrages, oui, il y a des choses qui sont assez intéressantes sur le complexe musculo-tendineux. Vous pouvez aller regarder un peu des articles, notamment d'Alexandre Fourré, qui travaille du coup dans mon laboratoire, qui travaille sur le complexe myotendineux. Et c'est très instructif. Alors, ça fait appel à des concepts, à des notions dont on n'est pas forcément familier tout de suite, les modules d'élasticité, modules de Young, mais rigidité, élasticité. Mais je pense que c'est des choses qui sont absolument, j'ai envie de dire, absolument indispensables en fait pour essayer de comprendre l'action de la main de l'ostéopathe sur le tissu, in fine.
Alors tu devances ma question, est-ce que de lire, est-ce que ces influences-là, d'aller t'approcher de la physiologie, en tout cas c'est du microscope, tu vois un changement dans ta qualité de toucher, dans le tact de la main de l'ostéopathe, qui est une main qui a de la question-réponse, on pose la main, etc. Est-ce que tu perçois un changement tous les jours à la ville
Alors, cabinet. Tous les jours, malheureusement, non. Je pense que c'est des processus de perfectionnement qui sont lents, qui se construisent durablement. Mais oui, au fur et à mesure de ma pratique, je vois quand même de l'évolution. En tout cas, je ressens de l'évolution. Et je pense que j'apprends à me questionner aussi un petit peu différemment pour faire écho à ce que tu disais, le question-réponse, forcément. C'est qu'à force, voilà, de lire des choses comme ça, ben, je questionne, ou je donne plus de questions à ma main, en tout cas. Et après, du coup, j'ai peut-être une plus grande diversité de réponses. Voilà. Okay.
On s'aperçoit, pour en revenir à ce qu'on disait au début, que ton travail de chercheur et ton travail en cabinet, c'est vraiment une alternative. Ça te construit, en fait, tous les jours. Question-réponse. Tu fais d'autres choses à côté? Pratique du sport, parce que là, 60 heures par semaine, comment tu peux être physiquement in shape au cabinet? Pour ceux qui ne te voient pas, t'es plutôt affûté comme garçon. Comment tu fais?
Les 60 heures par semaine, du coup, j'arrive à...
Tu manges?
Je mange un petit peu, ouais. Je bois beaucoup de café, on en parlait tout à l'heure. Je pense que ce qui te permet de tenir, enfin, en tout cas, moi, ce qui me permet un peu de tenir sur ce rythme, c'est d'essayer d'avoir peu une hygiène de vie parce que bah t'as besoin de, des fois on a tous besoin de décomprimer, on a tous besoin un peu d'évacuer le stress et puis les questions c'est bien, mais au bout d'un moment on a aussi besoin de penser, d'évacuer, de penser à rien en fait. Moi je me suis conçu autour de la pratique sportive et donc je fais pas mal de sport de montagne, tout ce qui va être escalade, trail, alpinisme, c'est un peu mon exutoire. Donc j'ai pas intérêt à être trop lourd si je veux monter vite, tu vois ce que je veux dire?
Je vois bien. C'est ça les clés de cette réussite des 5 dernières années, d'avoir tout, de mener tout ça de front. Tu pourrais donner quoi comme on en parlait un petit peu avant, comme outil un mec qui sort de 5e année ou une nana qui est ostéo, qui dit allez, je fais de la recherche, je monte mon cabinet, je fais à côté mon sport, j'ai une relation, j'ai une vie familiale, peut-être j'ai des enfants. Comment tu mènes tout ça de front?
T'apprends pas beaucoup dormir déjà.
Ah, voilà.
Non, je pense que déjà ce qui est important, le moteur principal, c'est un peu le plaisir, la passion. C'est-à-dire que tu te lèves pas le matin en te disant, tu te lèves pas le matin en partant pour du laboratoire, enfin 4 ou 5 heures au laboratoire, 3 heures à l'école d'ostéopathie en tant qu'enseignant et 4 heures en tant que clinicien. T'alimentes pas l'envie de faire ça par hasard, quoi. Je veux dire, c'est que t'es passionné déjà. Ça, je pense que c'est une chance. Enfin, j'ai la chance d'être passionné. Primo, et puis après je pense que l'hygiène de vie, mine de rien, faut pouvoir avoir des heures de sommeil conséquentes, faut avoir un exutoire à côté, faut avoir quelqu'un, c'est dans l'idéal, il faut avoir quelqu'un qui te soutient aussi, parce que moi j'ai la chance d'avoir une compagne qui me soutient dans ses projets, et puis je pense qu'il faut croire en ce qu'on fait. C'est-à-dire moi je crois en fait dans ce que je fais, c'est-à-dire que j'espère que mes efforts pour développer mes compétences et mes connaissances en tant que chercheur aideront à faire avancer notre discipline, franchement. Et je pense que c'est ça en fait qui me fait me lever le matin tôt ou coucher tard le soir aussi.
Et est-ce que tu as, je pense qu'on en a tous, des moments un peu plus compliqués que d'autres? Je sais pas, les premiers froids de l'hiver, ou quand tu vois la neige arriver, tu te dis purée, je pourrais mettre les peaux de phoque. Comment tu arrives à aller chercher des sources de motivation? Tu fais comment? C'est quoi tes outils?
Ah, on a tous, on a tous nos moments. On est un peu moins, on n'est jamais tout le temps au top. Hein, ça, c'est que dans les films. Hein. L'avantage d'une thèse, si je puis dire, c'est que ça dure qu'entre 3 et 4 ans. Donc de toute façon, là tu vois, j'arrive sur la partie, sur le sprint final. Donc il y a au bout d'un moment, tu te dis, bon bah voilà, j'ai envie de faire toutes ces choses, je les pousse un peu plus loin et je les ferai après, quoi.
Donc là tu arrives sur la partie de l'écriture de
ouais,
ta thèse.
Ouais, c'est ça exactement, je vais arriver sur la partie...
un nouveau métier presque.
Ouais, c'est une tâche à part entière, hein, l'écriture du manuscrit de la thèse. Il va falloir pondre, entre guillemets, si je le dis un peu vulgairement, ta Bible, encore une fois avec des guillemets. Donc là, c'est un exercice bien à part, qui est long, qui est fastidieux, qui est exigeant, qui nécessite pas mal d'allers-retours avec les directeurs de thèse. Tu es convaincu d'avoir fait quelque chose de super et puis tu reçois un document qui est rouge et barré de partout. Donc forcément, il y a des moments de frustration, hein, bien sûr. Mais...
Alors, est-ce que le cabinet, par exemple, te ressource? Tu reçois un truc tout rouge, c'est là-dessus que je veux t'emmener. Tu viens, tu soignes tes patients, j'imagine que tu as un retour d'une patiente.
Étant donné que c'est que ma vie est compartimentée, si tu veux, je coupe à un moment. C'est-à-dire que, voilà, j'ai ma vie en tant que chercheur, j'ai ma vie en tant qu'ostéopathe, j'ai ma vie en tant que personne, individu, moi, Mathieu Degault, et puis j'ai ma vie en tant qu'enseignant. Et donc, ça se passe jamais mal de partout en même temps.
Voilà.
J'ai de la chance.
J'essaie d'aller chercher chez toi la clé du succès. Tu vois, se dire que finalement, ce clivage qu'on avait au début entre le chercheur et puis le travail empirique, finalement, il y a toujours un bon côté qui va ressourcer l'autre.
Ouais.
Donc, de tout mener de front, c'est peut-être la clé de la réussite. Chez toi.
En tout cas, chez moi, ouais. Je pense que je suis plus épanoui en tant qu'individu en ayant ces différentes facettes, en fait, et en menant ces différents projets. Je pense que je serais nettement moins épanoui et peut-être du coup nettement moins performant, entre guillemets, en menant un seul truc. Ouais. Je suis pas trop monotache, j'aime ouais. pas trop ça, je m'en lasse vite, en fait.
Okay.
Et là, le fait que finalement, mon fleuve alimenté par différentes sources, entre guillemets... Ouais.
Donc on en revient sur le début de la conversation, pluridisciplinarité, pluralité dans les passions et les métiers.
Ouais.
Ouais, on a les bases d'une clé en tout cas pour nos auditeurs qui veulent peut-être demain mener la vie que tu as. Mm-hmm. C'est ce que moi je souhaite avec ces interviews, c'est qu'on prenne le meilleur de chaque acteur de l'ostéopathie en venant dans ces cabinets. Je vais revenir un petit peu sur parce que je veux des noms, sur les gens qui t'ont influencé. Donc là, tu nous as donné, j'ai mangé son nom, qui bosse au labo avec toi.
Monsieur Alexandre Fourré, ouais, Alexandre Fourré.
D'autres livres qui n'ont peut-être rien à voir avec, qui ont pu t'aider sur des entrepreneurs, sur des livres ou peut-être des reportages, des choses qui t'ont marqué à un moment donné, qui ont été, moi, ce que j'appelle des géants sur lesquels on peut s'appuyer, qui t'ont construit à nous conseiller.
Je suis un passionné d'histoire,
ouais.
Si tu veux. Voilà. Voilà, c'est pour dire les choses. Je suis un passionné d'histoire et donc je dévore un peu en ce moment différents livres d'histoire. J'essaye d'analyser un petit peu la vie des personnages historiques qui m'ont impressionné enfant et qui aujourd'hui m'impressionnent par leurs actions. Et je pense que ces noms, en fait, ces personnages historiques, je pense qu'ils nourrissent quelque part. C'est-à-dire que eux, ils ont fait je me dis que ces personnes ont fait des choses absolument incroyables, des combats d'une vie. Tu vois, un type comme Nelson Mandela, tu vois, enfin, je veux dire, tu peux pas rester insensible face à ce que ce type a accompli, quoi. C'est un type qui s'est fait emprisonner pendant 10, 20, 30 ans, je sais plus. Il arrive à la présidence de l'Afrique du Sud en 94, et il va essayer de réconcilier une nation, quoi. Tu vois, des types comme ça, tu te dis, moi, le matin, quand je me lève et que je suis fatigué, mais je me dis, mais moi, c'est rien, quoi.
Ouais.
C'est que je peux y aller,
ouais,
quoi.
Je peux y aller.
Je peux y aller. Et, voilà, tu vois, c'est finalement.
Non, mais c'est hyper intéressant, ça.
Je parle de Mandela, ouais. Mais tu vois, un mec comme De Gaulle qui, du jour au lendemain, quitte la France et qui dit, OK, moi, j'accepte plus, je ne cautionne plus, je pars à Londres. Et on va monter un projet de résistance. On va faire l'appel. C'est incroyable.
Ouais.
Ouais. Ouais. Voilà, tu vois, des types comme ça. Donc je pense que voilà, j'essaie de me nourrir des influences un petit peu.
Chercher en tout cas en dehors, vraiment.
Ouais, complètement. Et voilà, là, tous les jours, je lis les journaux, tu vois, tous les jours. Ouais. J'essaie de voir un peu ce qui se passe dans le monde. Tu vois ce qui se passe dans des pays gangrénés par la corruption, la misère, les famines, etc. Mais encore une fois, ce que je vis à côté, enfin, les jours où c'est difficile, c'est rien.
Ouais, c'est relativiser.
Absolument.
Vraiment voir ce qui se passe.
Prendre de la hauteur.
Prendre de la hauteur, du recul.
Ouais, absolument.
Et ça, absolument. Forcément, ça te recentre sur ce que tu fais.
Ouais, absolument. Oui, en fait, j'essaie de, autant que faire se peut, de sortir de ma personne. Finalement, c'est. T'as moi en tant qu'individu, j'ai envie de te dire, enfin, quelle importance. Voilà, ce qui est important, c'est presque plus ce que je vais apporter aux autres, à ma discipline, aux patients que je vais voir. Moi, que je me sente inconfortable parce que j'ai pas dormi assez, voilà, c'est que moi que ça concerne, quoi.
Ouais. Tu vois. Et alors, la question un petit peu taquine, je voudrais que tu me trouves ta plus grande qualité d'ostéopathe pour toi, ce qui fait que tous les jours tu te dis mais moi j'ai cette qualité là, c'est être humble hein, que de connaître ses forces et ses faiblesses. Moi je vais te demander ta force, celle qui fait que tous les jours tu mets cette qualité là en avant, elle sert ton patient, elle sert notre prochain, j'ai envie de dire. Comment tu la définirais?
Bienveillant. Alors, du coup, on est assez loin du scientifique, on est assez loin du du super diagnostic où on est assez loin de du super schéma de soins. Mais je pense que la qualité principale d'un soignant, enfin en tout cas une des qualités du soignant, je pense que c'est la bienveillance.
C'est la bienveillance.
Ouais, absolument. C'est-à-dire que même si je suis pas très bon, si je donne tout ce que j'ai pour qu'il aille mieux, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a besoin dans le monde dans lequel on vit un peu de bienveillance.
Ouais. Ça m'amène à l'autre question. J'ai pas envie de parler d'un point faible, mais un point à améliorer, puisque c'est comme ça que tu dois être avec tes élèves, toujours se dire, attends, là-dessus, je peux faire mieux. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui?
Peut-être des fois un peu impatient, mais c'est facile ouais. comme réponse. Hein. Je pense que t'as beaucoup de monde qui dit qu'ils sont impatients. Je pense que je suis un peu impatient, et puis...
C'est pas simple.
Ouais, c'est pas simple. Ouais. Non, c'est pas simple. Je pense que des fois, j'ai aussi mes idées, j'ai parfois des jugements un peu hâtifs sur le bien, le mal.
Ouais.
Voilà. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien quand les gens me racontent leur vie, la façon dont ils vivent, etc. Peut-être que des fois, j'ai des jugements un peu hâtifs. Alors, bien sûr que je me garde bien de partager. Hein. Ça, c'est à moi. C'est
ouais, pas, ouais, bien sûr.
Je me permettrai pas, en tant que praticien, de dire ce que j'en pense. Mais je pense qu'au début, en tout cas, c'était le cas. Peut-être de moins en moins, justement, à force d'échanger, de partager sur la vie des gens. Parce qu'en fait, on relativise. Comme tu dis tout à l'heure, on prend peut-être de la hauteur. On se rend compte que finalement, notre façon de penser pas forcément la bonne. Mmh. Il y a plein de façons de faire bien, il y a plein de façons de faire mal.
Ok, j'aime bien. On va mettre un peu plus de légèreté. Toi qui fais de l'alpinisme, du coup, tu es en train de passer, tu vas passer ta thèse. J'espère qu'elle sera ouverte. J'adorerais venir te voir soutenir. Mais la thèse, c'est un Everest. Et tu sais aussi bien que moi, même peut-être mieux, qu'est-ce qui fait l'alpiniste, qui arrive en haut de la montagne, et puis il la gravit, et il arrive en haut, il fait quoi après? Qu'est-ce que tu vas faire après ta thèse?
Ah.
Si on anticipe un petit peu.
Ouais, alors bon, je pense que déjà quand t'arrives en haut, faut savourer.
Ouais. Hein.
Des fois, quand il fait trop froid, tu redescends vite, mais c'est frustrant. Non, je pense qu'en arrivant là-haut, faut savoir savourer un peu l'instant. Regarder ce que t'as gravi, essayer de prendre conscience de ce que t'as fait. Ça, je pense que c'est important. Et puis après, peut-être regarder les prochains sommets.
D'autres défis,
oui, d'autres projets, oui, c'est ça exactement. C'est qu'est-ce que maintenant j'ai envie de faire. Là, il y a plein de choses.
On te propose des choses, peut-être?
Oui, il y a différents projets. Il y a différents projets pro qui se démarquent, qui commencent à... Donc, je commence à définir les contours. Comme on commençait à se le dire tout à l'heure, le fait que tu sois pris dans l'exigence de la thèse... Finalement, il y a plein de choses que tu es obligé de mettre de côté hein, quand même. Hein. Et du coup, toutes ces choses-là, ben, aujourd'hui, j'ai aussi envie un peu de les ressortir. Alors, il y a du pro, on parle du pro, mais il y a aussi du perso.
Ouais.
C'est-à-dire que ben, ces exutoires, j'aimerais avoir un peu plus de temps pour faire de la montagne, notamment, tu ouais. vois.
Donc, changer un peu d'orientation. Parce que le profil que tu as, le CV, si je peux me permettre, en tout cas, que tu es en train d'avoir, va forcément amener de la curiosité. Tu risques d'être sollicité si tu l'es pas déjà. Tu vas avoir des compétences rares. Les choses rares sont précieuses. Il va falloir gérer un petit peu le Kylian Jornet qui est monté en 4h30, qui a fait l'aller-retour du Mont Blanc sans rien. Tu vois l'idée, c'est
ouais,
ça
ouais, ouais, ouais.
Tous les ostéos ont pas une thèse.
Alors,
sans trop nous en dire, mais sur le côté professionnel, des orientations de choses que tu pourrais nous dire.
J'aimerais, alors comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, ne serait-ce que passer du temps pour travailler dans le pôle recherche en fait de l'école,
ouais.
pour commencer à développer différents projets expérimentaux. Ça demande un vrai investissement. Hein.
Très global ou toujours centré sur l'épaule, le rugby, parce que tu interviens.
Oui, alors là, je travaille vraiment spécifiquement sur l'épaule. Après,
Tu peux nous en parler un petit peu de, sans digresser trop sur la question, mais où est-ce que tu interviens, dans quel club, etc., avec quel type de population, tu peux nous en parler?
Oui, oui, alors, comme je disais tout à l'heure, je travaille essentiellement sur les problématiques d'instabilité antérieure. Donc, mon travail de thèse se focalise sur essayer d'identifier les facteurs de risque de blessure, donc essayer d'identifier quels sont les individus à risque. En tout cas, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs de survenue de blessure? Ça, c'est une première chose. Ensuite, une fois que les personnes ont été opérées, comment le complexe de l'épaule va s'adapter d'un point de vue biomécanique, donc au niveau du système musculo-squelettique, pour permettre ensuite un retour à l'activité.
Et c'est des rugbyman professionnels.
Il y a des, effectivement, on travaille avec beaucoup de rugbyman, et dans les différentes expérimentations, on travaille aussi avec des rugbyman professionnels. Essayer de comprendre pourquoi certains individus n'arrivent pas à retourner au meilleur niveau après leur opération, alors que dans un certain nombre de cas, ça se passe très bien. Donc voilà, essayer de mieux comprendre finalement les organisations ou les problèmes d'organisation du système musculo-squelettique. Donc on travaille avec de l'électromyographie de surface, donc on essaie de comprendre un petit peu les patterns d'activation musculaire, on fait de la cinématique, donc on essaie de comprendre un peu comment notamment la scapula va réaliser ses différents mouvements sur différents gestes. Donc, tout simplement.
Pardon, je te coupe. Ce qui fait que tu as accès à de nombreux outils vidéo, tu peux développer un peu les outils avec lesquels tu travailles. Tout à fait. Alors, donner envie d'aller en labo, en fait.
Ouais, hein. Absolument. Bah, bien sûr, l'avantage du laboratoire, c'est que le laboratoire investit dans du matériel. C'est du matériel qui est extrêmement coûteux, qui, en tant que particulier, est très difficile à acquérir, à moins d'avoir gagné à l'euro million. Mais du coup, les différents outils qu'on va utiliser en biomécanique, ça va être des plateformes de force, donc qui vont nous permettre d'étudier notamment les forces de réaction au sol. Première chose. Deuxième chose, on va beaucoup travailler avec de l'électromyographie de surface, qui va nous permettre d'enregistrer l'activité électrique du muscle lors de son activation. Et on va travailler aussi avec des caméras infrarouges qui nous permettent de faire une capture du mouvement. Donc, c'est des outils, notamment les caméras infrarouges, qu'on va beaucoup utiliser pour faire des effets spéciaux ou alors des jeux vidéo. Vous voyez toutes les images que vous avez peut-être en tête, où on va coller toute une série de capteurs de marqueurs sur notre personnage dans une combinaison. Et qu'on va faire gesticuler devant toute une série de caméras qui vont nous permettre ensuite de reconstituer un avatar en trois dimensions.
Tu pourrais bosser numérique. Chez Pixar, finalement.
On peut un peu bosser chez Pixar, exactement.
Ok.
Voilà. Donc, c'est des outils qu'on utilise qui nous permettent, en fait, de découper un petit peu, si tu veux, ou de passer au microscope, tu utilisais ce terme tout à l'heure, le mouvement humain. Comment est-ce qu'il s'organise? Et le mouvement intéresse particulièrement les ostéopathes, il m'intéresse tout particulièrement également.
C'est magnifique parce que je vois que tu fais vraiment le lien. Et enfin, moi, je comprends maintenant le lien entre l'ostéopathie, qui est la science du mouvement, on va dire, enfin, la kinésithérapie aussi, mais je vais prendre la thérapie manuelle, cette analyse du mouvement, et le labo des STAPS, qui est vraiment l'étude des sportifs. Et là, tu parles de rugbyman professionnel, j'utilise souvent ça, mais c'est des Formule 1, c'est des mecs, c'est très précis. Quand tu parles de retour à la compétition, à très haut niveau, il y a forcément des enjeux derrière.
C'est sûr.
Et là, on comprend mieux.
Voilà.
Et je trouve que le rôle de l'ostéopathe prend encore plus de dimensions. On en forme de plus en plus. On souhaite tous les deux, enfin, beaucoup de gens qui nous écoutent, que le métier de l'ostéopathie, de l'ostéopathe, puisse perdurer, s'améliore, etc. Et là, on prend la dimension du truc. Tu dois bien t'éclater avec tous ces jeux, tous ces outils.
Les petits joujoux, absolument. Et d'ailleurs, si vous êtes volontaire pour participer, n'hésitez pas à m'appeler. Non, je rigole, je fais pas du recrutement, mais non, mais c'est fascinant. En fait, c'est fascinant tout ça, Greg. Et puis, en fait, moi, j'adorais que d'autres jeunes ostéos se lancent dans des trucs comme ça. Alors, bien sûr, là, tout à l'heure, on l'évoquait, ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement, mais c'est absolument passionnant, en fait. Hein. On a aussi des belles formations qui nous donnent des vraies compétences. Et faut pas avoir peur de se lancer, faut oser, en fait. Oser aller découvrir tout ça. Et je souhaite à terme développer, tu vois, tu parlais des projets futurs, j'aimerais bien développer des ponts entre les formations en ostéopathie et les formations universitaires, parce que on devrait pouvoir continuer à se former facilement, et à travers les pôles universitaires, c'est la vocation première de l'université, c'est de former aux étudiants, c'est former les étudiants. Et donc, je voudrais qu'on crée des ponts plus facilement entre ces écoles d'ostéopathie privées qui, pour l'instant, fonctionnent, quoi qu'on en dise, fonctionnent un petit peu en autarcie quand même, avec leurs règles. Et puis, une fois que le jeune ostéopathe sort, c'est un peu moins vrai maintenant, une fois que le diplôme est reconnu en tant que Master 2. Mais c'était pas le cas à mon époque, hein, il y a 5 ans en arrière, on l'avait pas. Donc, quand je me suis présenté pour faire un Master, au début, l'université m'a dit « Mais qu'est-ce que vous avez exactement comme formation ?» J'aurais dit « Je suis ostéopathe. » Mais eux, ils me recherchent dans leur grille, ils m'ont pas. Donc là, maintenant, avec l'équivalence des diplômes, c'est déjà plus facile. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à faire vis-à-vis de ça.
Finalement, pour en revenir un peu à Steele, t'es un peu un pionnier, toi aussi, à ta manière. Et c'est les pionniers, enfin, qui font avancer notre métier. Si on peut faire un parallèle, il y a quand même quelque chose là-dessus à creuser. Donc c'est fantastique. À titre personnel, moi, je te remercie de pousser notre métier comme ça, en tout cas de faire ces ponts, de prendre du temps pour ça, parce que ça suscite l'intérêt chez beaucoup de gens. C'est pour moi la qualité première d'un enseignant, c'est susciter l'intérêt chez l'autre, et tu transpires ça, donc vraiment je te remercie pour ça. Je vais t'embêter un petit peu maintenant.
Vas-y, je suis prêt.
Si je t'ai pas assez embêté, je vais t'embêter un petit peu. Tu nous as parlé du café, tu as d'autres addictions. Tu fumes pas, t'as une bonne hygiène de vie, toi. Tu disais tout à l'heure.
Ouais.
Une addiction, je sais pas, au yoga, la méditation. Il faut que de temps en temps t'ailles courir pour sortir l'adrénaline. Il faut.
Ouais. Alors globalement, addiction au sport.
Ouais.
Si j'en parlais pas, je pense que je mentirais. Oui, il y a quand même une petite addiction derrière. Hein.
La bigorexie, je crois. Ouais, on y est pas.
Là, bon, je peux pas y aller. Je peux pas y aller tous les jours, mais. Mais globalement, c'est pour moi, comme je te disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'exutoire, et ça m'a construit en tant qu'individu, ça a participé à ma construction en tant qu'individu, et c'est quelque chose dans lequel je m'éclate, hein, quoi. Donc moi, être dehors, que je cours, je nage au suspendu au bout d'une corde, ou finalement au milieu d'un lac, je suis heureux, quoi.
Tu as des petits rituels, tu vas courir tous les matins, entre tes patients aussi, tu as des petits rituels,
Alors, entre mes patients.
Tu jettes un café entre chaque patient?
Non, quand même pas. Non, je pense que j'essaie d'avoir un volume d'activité semaine à peu près constant, j'essaie de faire des trucs qui m'éclatent, dans lesquels vraiment je me fais plaisir. J'essaye aussi d'avoir des temps calmes à côté, des temps, tu vois, tu parlais tout à l'heure de méditation, j'en fais un peu moins maintenant, j'en ai fait pas mal par le passé, parce que ça m'a permis de construire un peu mes schémas mentaux, si tu veux, mes schémas ressources, voilà. Et puis entre chaque patient, est-ce que j'ai un je me lave les mains.
Ouais.
Je me lave les mains et
ça te vous rassure.
C'est ça. Hein.
Tu prends une petite pause, tu te laves les mains, tu enchaînes quand même les patients.
Non, j'essaie d'enchaîner, ouais. Mais encore une fois, je suis content d'aller voir chaque patient, parce que chaque vie est différente.
Ouais.
Et ça, je trouve ça génial, en fait. Voilà. Okay. C'est juste, c'est peut-être assez égoïste, hein, mais tu vois, c'est le plaisir, c'est un peu mon moteur quand même. Et j'ai de la chance d'avoir du plaisir en faisant ça. Mais en tout cas, non, je pense que c'est pas tellement un rituel entre chaque patient, c'est plutôt cette notion de renouvellement à chaque fois. Tiens, on voit autre chose, qu'est-ce que je peux apporter,
ok,
à cette vie.
Eh bien, justement, si tu étais Mathieu Degault, il y a, je prononce bien, c'est bien Degault.
C'est ça, c'est ça.
Hein. Si tu pouvais te chuchoter à l'oreille quelque chose en sortant de terminale, on va dire en rentrant en école d'ostéo, avec la connaissance aujourd'hui de ton parcours, qu'est-ce que tu te dirais?
qu'est-ce que je me dirais du coup en terminale ou en première année d'ostéopathie?
Voilà, aujourd'hui, là, tu viens de passer le bac, tu vas attaquer l'école d'ostéo.
Ouais.
Et puis, tu as ce Mathieu Degaux d'aujourd'hui, avec plus de maturité, énormément de compétences et de connaissances en plus. Si tu pouvais aller te chuchoter quelque chose à l'oreille, qu'est-ce que tu dirais?
Crois-y
ou
fonce.
Ok. Fonce. En tout cas, tu changerais pas grand-chose. Tu te mettrais un peu devant dans les voiles encore plus.
Peut-être, ouais, sûrement.
Vous le voyez pas, mais il a le sourire, Mathieu.
Ouais. Oui, je pense. Crois-y, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important, en fait. Il faut croire en soi et. Je pense que c'est le message en fait que j'ai presque envie de transmettre plus à tous les étudiants, quoi. Enfin, encore une fois, moi, mais. Peu importe, moi, quoi. C'est plus tous les étudiants croyant en vous et ayant envie de faire des choses, ayant envie d'aller découvrir, ayant envie d'apprendre, ayant envie de partager. Et pour ça, je pense que pour aller faire tout ça, pour aller faire ces choses qui parfois sont difficiles, faut croire en soi. Et je vois plein d'étudiants. Je pense qu'il manque de confiance en eux, c'est normal. Peut-être qu'à 18 ans, tout le monde manque un peu de confiance en soi, mais je crois que ça, c'est j'essaye de leur dire, et je pense que je leur dis pas assez, je vais leur dire plus maintenant. Mais c'est plus croyant en vous, parce que toutes les choses difficiles, finalement, par essence, elles sont difficiles, elles sont complexes, et il va falloir que vous croyiez en vous à un moment pour arriver à toucher du doigt votre rêve, ou alors votre aspiration, quoi. Et pour ça, faut y aller, quoi.
Ok, voilà. En tout cas, ça me parle. J'espère que ça parlera à beaucoup d'étudiants. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te lire? On va sur PubMed, on tape Mathieu Degaux. Est-ce qu'on peut te contacter si demain il y a un étudiant qui souhaite faire un... Est-ce que tu réponds par mail, des réseaux sociaux, comment on peut te contacter?
Oui, écoutez, je pense que le plus simple, je suis quand même sur ma boîte mail quasiment tous les jours, donc s'il y a des étudiants qui se questionnent un peu sur leur projet futur, comment concilier peut-être ostéopathie, science, et quoi faire après leur cursus d'ostéopathie, je serais ravi finalement de leur répondre. Alors ne vous offusquez pas si c'est pas dans les 24 heures, hein, parce que il y a parfois d'autres mails à gérer en parallèle.
Mais dans les 6 mois. On est large.
Voilà, Grégory dit ça parce que du coup, on a mis 6 mois entre le moment où on a évoqué l'idée de cette interview et le moment où on a mis en place cette interview.
Mais c'est bien, on est.
C'est bien.
C'est ce que tu m'avais dit.
Voilà, c'est ce que je t'avais dit. Non, bien sûr, je mettrai pas 6 mois pour vous répondre. Vous pouvez me joindre sur mon adresse universitaire, donc mathieu.degaux@univ-6-lyon1.fr. Mathieu avec 2 T. Degaux, D-E-G-O-T, voilà. Je serais ravi de vous répondre. Je ferai ça dans les meilleurs délais. Donc n'hésitez pas par mail, ce sera très bien comme ça.
T'as une publication à venir là? Tu vas publier quelque chose?
Oui, il y a des publications. Le travail du chercheur, c'est de publier, hein. Ce qu'on dit en science pour entre nous pour rigoler, publish or perish. Donc, tu vois, c'est la course à la publication. Je suis sûr que tu te souviendras de celle-là.
Voilà. J'adore.
Et donc il y a une publication qui est en cours là, donc ça devrait avancer en 2022, début 2022.
Tu as le titre? On découvrira.
Vous découvrirez.
Okay.
Ouais, vous tapez Degaux Shoulder sur PubMed ou sur Google Scholar et vous aurez déjà des éléments d'information. Ok.
Je te remercie, Mathieu.
Je t'en prie.
Avant de te laisser, j'ai un petit quiz pour toi de 10 questions. Alors, on va commencer facile. Je te donne les règles, mais tu choisis. Tu as droit à un joker ou deux si tu veux. Alors, labo ou ostéo?
Ostéo.
Crânien ou viscéral?
Viscérale.
Pédiatrie ou gériatrie?
Pédiatrie.
Homéo ou acupuncture?
Acu.
Bien ancré ou bien perché?
Ancré.
Ancré. Plutôt grosse anamnèse ou good feeling?
Grosse anamnèse.
Rééducation ou réathlétisation?
Rééducation.
Biostat ou Bioméca?
Bioméca.
on s'y attendait.
Facile.
Ah, pratiquer ou enseigner?
Pas facile. Enseigner.
EBM ou storytelling?
EBM.
Ouais. Et puis celle-là, elle est sympa. Basket, chemise ou Crocs, blouse blanche?
Répète.
Basket et chemise ou Crocs et blouse blanche?
Ah, basket, chemise.
Ouais, plus classe.
Ouais, plus classe.
Je te remercie, Mathieu.
Merci à toi,
d'avoir pris ce temps avec nous aujourd'hui. Vraiment un plaisir. Je te suivrai avec pareil beaucoup de plaisir dans ta carrière. J'espère qu'on se croisera longtemps dans notre milieu de l'ostéopathie. Et puis je te laisse le dernier mot avant de couper.
Eh ben écoute, je vais te rendre l'appareil. Merci beaucoup Greg pour ton invitation. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. Je pense que c'est ces rencontres aussi qui nous façonnent, et puis je pense que c'est ces rencontres et ces échanges qui peuvent apporter de l'information à plein de monde, et à travers le podcast que tu montes, je pense que c'est une, déjà je pense que c'est une super initiative, et je pense que c'est aujourd'hui c'est un moyen pour acquérir des connaissances et des compétences super super pratiques, quoi, et je pense que ça touchera plein de monde. Et puis bon, écoute, j'en profite pour remercier un peu les personnes qui partagent mon quotidien au laboratoire, au cabinet, et puis à l'école d'ostéopathie, parce que tous ces travaux là qu'on a évoqués, c'est jamais le fruit d'un homme tout seul, hein. C'est j'ai envie de dire une équipe, et je remercie chaleureusement ces personnes. J'espère que ça a ravi nos auditeurs, et j'espère que ça a permis à tout le monde d'avoir un peu plus de connaissances, et puis ça a peut-être soulevé des questions, voire des vocations. Je l'espère en tout cas. Merci Greg.
Merci Mathieu.
Global Thinking.
Merci d'avoir écouté entièrement cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre la meilleure note que je puisse monter dans les classements. Partagez-le à fond. Parlez-en à votre entourage et ça fera vivre ce podcast. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et bien sûr sur mon site internet globalthinking.fr. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse.